Plusieurs ambassades, dont celle de Belgique, ont été attaquées par des manifestants à Kinshasa, au Congo, après que les rebelles du mouvement M23 ont pris la ville de Goma dans une région, paraît-il, très disputée. Nous faisons un point sur la situation avec Eric Kennes. Il est chercheur senior au programme d'Afrique de l'Institut Royal d'Egmont. Il est au micro de Lucie Gilson.
Bonjour Eric Kennes.
Bonjour Anna.
Alors, vous êtes chercheur senior au programme Afrique de l'Institut Royal Egmont ici à Bruxelles. Depuis quelques jours, les événements au Congo ont été très médiatisés. On apprenait que le mouvement rebelle M23 s'était emparé de la ville de Goma et aujourd'hui, des manifestations ont ciblé plusieurs ambassades européennes à Kinshasa, dont l'ambassade de Belgique. Alors, tout d'abord, pour contextualiser un peu, le Congo est-il en passe de retomber dans une guerre civile aujourd'hui?
Non, guerre civile, non, parce que bon, cela veut dire que des populations ou des communautés locales s'affrontent les uns aux autres, mais je crois on n'est pas encore là. Donc, l'historique des conflits remonte bien sûr dans l'histoire. Ça recommence très loin, ou peu loin, c'est comme vous voulez. L'origine lointaine du conflit, c'est un peu le problème de l'intégration des communautés randophones. Qui habitent essentiellement au nord Kivu, donc ça veut dire à l'est du pays, l'intégration de ces communautés dans la nation congolaise, ça n'a pas posé problème jusqu'à la fin, disons, des années 80, mais là, il y a des problèmes qui ont commencé, qui ont des racines avec les inégalités sociales qui se sont calquées sur une dimension ethnique, où il y avait des originaires randophones tutsis qui avaient... à qui on avait octroyé des terres, merci, un appartement nombre de terres. Il y avait des immigrés qui contestaient l'autorité des chefs coutumiers locaux. Et bon, c'est une histoire très ancienne qu'il ne faut pas raconter ici. Mais finalement, il y a des conflits locaux qui sont centrés autour de la propriété de la terre, autour de l'identité, autour des inégalités sociales, qui finalement ont été instrumentalisées et qui ont été manipulées par les voisins, donc surtout le Rwanda. Ça c'était à l'origine de plusieurs guerres. Donc, il y a la guerre qui a commencé en 96-97, qui a mené à la chute de Mobutu. Ensuite, il y a eu la guerre de 98 jusqu'à 2002-2003. La guerre de RCD qui a en fait aussi occasionné la mort de Laurent Kabila et qui a amené son successeur Joseph Kabila au pouvoir. Puis finalement, il y en a plusieurs. Il y en a encore 2006-2007. Il y a encore une rébellion sous Laurent Kunda qui contestait l'autorité de Kinshasa. Il y a encore eu le M23, la première guerre en 2012-2013. Et maintenant, on est à une nouvelle édition de ce conflit.
Alors, aujourd'hui, les manifestants, justement, qui ont pris d'assaut aujourd'hui ces ambassades occidentales à Kinshasa, ils reprochent aux Occidentaux, justement, enfin, d'après ce que j'ai compris, qu'ils instrumentalisent en fait ce conflit ou qu'ils leur reprochent en fait leur passivité face à ce qui se passe dans les régions de Goma et du Nord Kivu au Congo. Est-ce que c'est fondé ces accusations?
Oui et non. Donc, ce que les manifestants ont en tête, c'est une version simplifiée du conflit, où on s'imagine que le président rwandais Paul Kagame est la marionnette des puissances occidentales, notamment les États-Unis, la France, essentiellement. On ne parle pas de la Grande-Bretagne, tandis que Kagame joue un rôle très important au niveau mondial. Et donc, c'est une version simplifiée où on pense que les grandes compagnies occidentales minières manipulent le régime de Paul Kagame pour avoir accès aux minerais du Congo, parce que au Congo on a un peu tendance à penser que le monde entier n'a que le Congo en tête. Ce à quoi elle pense, c'est la guerre précédente. Donc en 2012, il y avait le même mouvement qui s'appelait M23 pour plusieurs raisons, qui était composé essentiellement, son noyau en tout cas, composé de Congolais randophones qui ont commencé un conflit armé, qui sont d'ailleurs, entre autres, les enfants des réfugiés d'une autre guerre, donc les conflits qu'il y a eu entre 1994, où la population locale s'est tournée contre les randophones et une partie qui a fui à Kigali, qui sont toujours là. Maintenant, le M23 avait aussi occupé la ville de Goma, et à ce moment-là, il y a une réaction très importante. Donc, il y a plusieurs pays qui ont coupé les aides au Rwanda, et le Rwanda leur a ordonné au M23 de quitter la ville. Mais il ne faut pas oublier que ceci n'a duré au maximum un peu plus qu'une semaine, donc c'était une durée très courte. Maintenant, on est dans un autre conflit où le Rwanda s'est investi massivement avec, selon l'expert des Nations Unies, un nombre de troupes qui est entre les 3 et les 4 000, tandis que le M23, c'est autour de 3 000, mais on ne sait pas très bien. Et ils sont investis pendant plus de 2 ans dans une guerre quand même d'assez longue durée, avec un soutien à M23 qui a occupé progressivement des parties importantes, surtout du Nord Kivu, et même et qui maintenant s'accapare de nouveau de la ville de Goma. Et donc, on s'imagine que les pays occidentaux n'ont pas fait assez, qu'ils n'ont pas coupé les aides au Rwanda, ce qui aurait empêché à ce mouvement de prendre la ville. Et ils ont commencé à attaquer maintenant l'ambassade des États-Unis, puis ils sont allés, qui est un peu plus difficile, qui est mieux protégé, ils sont allés à l'ambassade de France, une ambassade qui est beaucoup moins protégée, ils ont brûlé une partie. Et puis, au retour sur le boulevard, ils ont aussi attaqué l'ambassade de la Belgique, mais ils ne sont pas atterris dedans, à ma connaissance.
Alors...
Mais il y en a aussi des pillages, et ce qui est beaucoup plus inquiétant, je crois, c'est que il y a eu des pillages de quelques magasins, donc on disait des magasins qui appartenaient à la famille Kabila, je ne sais pas si c'est vrai, mais selon ce que j'entends, on a aussi commencé maintenant à piller dans d'autres parties de la ville. Et donc ça, c'est beaucoup plus inquiétant, parce qu'il se peut que ce soit un feu qui se répand à travers les villes, mais bon, on n'en est pas encore là.
Alors, est-ce qu'on peut parler un peu de la réaction justement des gouvernements étrangers face à ces attaques? Alors, l'Allemagne a mis sur pause des discussions avec le Rwanda aujourd'hui sur son aide au développement, notamment, c'est ce que vous évoquiez un peu dans une précédente réponse. L'Allemagne a exigé des pays africains qui se réunissent aujourd'hui et les alliés du M23 pour qu'ils retirent leurs forces de l'est de la République démocratique du Congo. Est-ce que c'est une bonne manière de gérer cette situation? Est-ce que c'est ça, c'est comme ça qu'il faut envisager stratégiquement? Est-ce que ça se tient?
Ben, pour le moment, on est dans une situation où les négociations sont très difficiles. Les deux côtés, donc surtout du côté congolais, mais aussi du côté rwandais, on n'a pas fait preuve d'une réelle volonté de négocier. Ça, c'est un problème. Donc, les positions sont assez extrêmes. Donc, peut-être qu'il faut recourir à d'autres moyens. Et du côté du M23, je crois que ils ont pris un risque considérable avec la prise de Goma. Jusqu'avant, on ne la critiquait pas trop. Donc, ce qui est aussi lié peut-être à la faible gestion du pays du côté Congo. Le Rwanda n'était pas vraiment attaqué, on ne prenait pas de sanctions. Mais maintenant, avec la crise de Goma, ils sont presque obligés de réagir. Et donc, puisque la négociation maintenant devient très difficile, je crois que si on veut faire la pression sur le Rwanda pour se retirer de Goma, il y a presque pas d'autre moyen que de menacer avec des sanctions. Je comprends même pas très bien pourquoi on a pris le risque sécuritaire et risque diplomatique du point de vue des M23 et du Rwanda de prendre la ville de Goma en ce moment.
C'est-à-dire que quelque part, ces accusations de, bon, finalement, les puissances occidentales avaient un peu le regard dirigé ailleurs et que du coup, ces événements n'ont pu avoir lieu que parce que les dirigeants occidentaux étaient un petit peu occupés ailleurs, ou je comprends mal.
Bah, écoutez, la situation c'est un peu plus complexe. Il faut dire que le Rwanda a réussi à se présenter internationalement comme un pays qui pratique la bonne gouvernance. Et bon, ce qui est vrai, c'est que le Rwanda a réussi un certain miracle économique. Ils ont quand même réussi à reconstruire le pays, et c'est remarquable, au prix de la transformation de leur pays dans un état policier où il n'y a aucune liberté et une répression qui est très forte. Et aussi, avec un coût, notamment, le pays voisin, le Rwanda a une stratégie économique et qui est soutenue par une stratégie militaire, donc les deux vont ensemble. Et je crois qu'ils tirent aussi une partie de leur développement économique de l'influence qu'ils ont à l'est du Congo. Alors ça, c'est aussi un peu le fond du problème. Je suis de plus en plus convaincu que le Rwanda a une vision à long terme, notamment c'est de prendre le contrôle du Congo, donc le Kivu, pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons sécuritaires. Hein. Pourquoi? Parce que Il faut dire que la distance entre la frontière rwandaise et la capitale Kigali, c'est 150 kilomètres, donc ils sont vulnérables, ça il faut dire. Donc, de leur point de vue, d'un régime qui est essentiellement militaire, hein, il faut se protéger, et donc, c'est pour ça qu'ils veulent avoir le contrôle de l'est du Congo. C'est aussi le problème que, je crois que c'est ça qu'ils veulent, finalement. Ils ne sont pas investis pendant plus de 2 ans à une guerre coûteuse, quoi que l'on dise, avec un mouvement des M23, pour abandonner le morceau malgré tout à coup. Et ça qui complique vraiment les négociations. Si on négocie maintenant entre Kinshasa et Kigali, on peut arriver à un accord comme cela a été fait dans le passé, un accord assez superficiel où on donne un peu des récompenses, des choses à l'un et à l'autre pour calmer la situation, mais ça ne va pas résoudre le problème fondamental. Donc, la seule solution aussi, c'est que, mais ça sera très difficile pour le moment, c'est que le Rwanda et le Congo trouvent un accord où on se met aussi d'accord sur certains intérêts économiques. Cela ne veut pas dire approuver le piège par le Rwanda et le Congo, absolument pas, mais une vision réaliste. Il faut quand même repenser un peu l'économie minière telle que ça fonctionne à l'est du Congo. Je ne vois pas d'autre solution. Du côté congolais, on utilise très souvent aussi une lecture très simplifiée de ce qui se passe dans les filières minières, notamment le coltan, l'or, etc. Ce qui ne aide pas une solution.
Eh bien, Eric Kennes, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes chercheur senior au programme Afrique de l'Institut Royal Edgemont ici à Bruxelles. Merci beaucoup et à très bientôt.
Merci beaucoup.